Alors, les amis, je passe de bons moments avec vous, Annette aussi. Nous découvrons l'histoire des uns et des autres et c'est fascinant de voir le plan de Dieu pour la vie de chacun. Et nous avons trouvé deux ou trois personnes qui sont nées la même année que nous. Donc il n'y a pas que les enfants et des jeunes chez vous. Et d'entendre leur histoire, il y en a une qui s'est fait baptiser ici, dans cette chapelle. Et c'était intéressant d'entendre ton histoire, Denise. Voilà. Oui, c'est merveilleux de voir comment Dieu nous conduit les uns les autres vers la même famille pour le servir ensemble. Alors, il y a un chapitre dans le Nouveau Testament qui est incontournable si nous allons parler des relations fraternelles les uns avec les autres. Donc, nous avons vu Jean chapitre 13 ce matin, cet après-midi, c'est donc 1 Corinthiens chapitre 13. Et nous allons le lire ensemble. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Rechercher l'amour. Pourquoi ce chapitre est-il si populaire, si bien connu, même en dehors des cercles chrétiens? Pour certains, je crois que c'est juste de la beauté littéraire. C'est magnifique ce chapitre. Et ceux qui ne sont pas chrétiens peuvent le lire et l'apprécier en se disant « Mais Dieu n'est même pas mentionné. Pourtant, il y a beaucoup de belles choses ici. » C'est vrai que cela aide certains. Mais le chrétien voit Dieu partout dans le chapitre et peut même y voir un portrait du Seigneur Jésus-Christ. C'est une façon de lire le chapitre qui serait intéressant. Un beau chapitre qui nous parle de l'amour et qui nous parle finalement de Jésus-Christ. Le chapitre est souvent lu et commenté au mariage. Je ne vais pas demander qui a choisi ce passage pour son mariage, certainement plusieurs d'entre nous, et il est vrai qu'il est très pertinent, mais, excusez-moi, ce n'est pas le sujet. C'est quoi donc le sujet? Voici un chapitre qui tombe au milieu d'un développement sur le thème de l'entente dans les églises, dans la gestion des dons spirituels. Et se trouve au milieu d'une épître qui est consacrée à la vie d'une église où il y avait beaucoup de complications. il y avait des clans qui se formaient. Difficile, c'est le chapitre 1. Il y avait des doctrines qui étaient devenues controversées. La doctrine même de la résurrection. Il y avait des pratiques qui étaient sujets de discussion. Où est-ce qu'il fallait acheter sa viande, etc., etc. Et finalement, dans l'Église, il y avait beaucoup de tensions et au culte même, ils se disputaient. Et devant donc, la table du Seigneur, en prenant le pain et le vin, il y avait des relations qui n'étaient pas ce qu'elles devraient être. 1 Corinthiens 11. Et voilà que nous arrivons donc à la solution, à... au commentaire définitif de l'apôtre Paul sur tout cela. L'amour, si vous ne faites beaucoup de belles choses sans l'amour, cela ne sert à rien. C'est fort. Et donc, nous allons y penser un peu. Alors, si on veut donner un titre à ce chapitre, nous pourrions le trouver dans le dernier verset du chapitre 12. Je vais vous montrer la voie par excellence. Donc, la voie par excellence, c'est bien sûr l'amour. C'est que pour les chrétiens de Corinthe, les uns choisissaient un don spirituel, les autres un autre, et ils se demandaient quel était le don qui était le plus important. Et a dit Paul, mais attendez, doucement, il y a la vraie voie. La voie par excellence, je vais vous en parler. Et il a des choses surprenantes à dire à l'Église à ce sujet. Maintenant, nous allons commencer par les premiers versets. L'amour est indispensable, nous dit Paul. Il énumère 5 pratiques spirituelles en disant, après chaque évocation, si je fais cela, et si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Il parle du parler en langue, de la prophétie, de la foi, de la libéralité, du martyr même. Et en ajoutant, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze, je suis moi-même du bronze qui résonne. Je suis une cymbale qui retentit, qui fait beaucoup de bruit. Je ne suis rien, cela ne me sert de rien. 3 fois, donc, il est dit qu'un don spirituel ou un geste spirituel au service de Dieu, même spectaculaire, n'a aucune valeur sans l'amour. Un auteur a dit que dans ce chapitre, nous avons un cas de mathématiques divines, alors que Jérémie et Philippe se ferment les oreilles, si nous parlons de mathématiques. Mais 5 moins 1 égale 0. C'est l'argument de l'apôtre Paul. 5 dons spirituels sans l'amour, c'est nul. C'est à peu près cela, le message. Et Paul le dit donc de manière très, très vigoureuse. Et que Dieu nous aide à le recevoir, ce message. Jusqu'à quel point ma vie spirituelle est-elle une vie d'activité, ou de service, de don spirituel, sans l'amour, qui est l'essentiel, qui valorise ce que je fais pour Dieu, qui plaît à Dieu, qui peut rendre efficace aussi ce que je fais. Ensuite, dit Paul, l'amour dont je parle est visible. Vous allez pouvoir le voir. Et c'est donc dans les versets qui suivent. L'amour est. Il y a donc toute une série de verbes, 15 verbes. 3 pour dire à quoi ressemble l'amour. 8 pour dire à quoi il ne se ressemble pas. Et 4 qui sont suivis par le mot « tout » ou l'adverbe de « toujours ». Selon la version qu'on a. Et nous n'allons pas, rassurez-vous, nous attarder sur chaque description de ce qu'est l'amour. Je crois que cela serait... Nous pourrions faire une série d'enseignement sur chaque verbe qu'il y a ici. Mais je voudrais faire trois commentaires qui peuvent nous retenir brièvement. D'abord, ce qui est dit de l'amour laisse entendre que les autres sont parfois difficiles. Mais ce n'est peut-être pas le cas à la Russonara. Mais nous sommes faits de telle manière à ce que nous réagissons mal à ce que nous trouvons parfois chez les autres. Mais regardez, il est question ici de la patience. On a besoin de patience quand les autres mettent à l'épreuve notre patience. Le pardon. Il y a besoin de pardon quand il y a quelque chose à pardonner. L'injustice, dit Paul, le refus de s'aigrir contre les autres, et ainsi de suite. Donc, il y a ici un portrait de l'Église qui est très réaliste, qui nous fait voir que, normalement, dans une Église, il y aura des frères et des sœurs avec lesquels, de temps en temps, nous avons des difficultés. Et je suis admiratif du réalisme de la parole de Dieu, du début à la fin, nous fait voir la nature humaine telle qu'elle est, nous fait voir la vie d'Église telle qu'elle est. Ensuite, nous voyons ici que l'amour doit triompher de notre mauvaise nature, de ce qui est difficile en moi. 5 ou 6 victoires personnelles sont mentionnées. Une victoire sur la jalousie, sur l'orgueil, sur l'amertume, sur l'égoïsme, sur la rancune, la méfiance. L'amour donc doit triompher de ce que ma mauvaise nature, ma chair, comme disent les anciennes versions, produisent en moi. L'amour est un combat spirituel, une lutte spirituelle. L'amour participe à ce combat dont parle l'apôtre Paul en Éphésiens. Nous ne luttons pas juste contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres qui activent toutes ces mauvaises choses chez les autres et en moi. Il y a donc un combat spirituel. Ensuite, l'amour est entier et sans limite. Ce petit mot « tout » revient 4 fois au verset 7. Et la répétition de tout nous donne l'impression que l'amour est vraiment, on va dire, surnaturel, dépasse ce qu'on peut attendre. L'amour pardonne tout, croit tout, espère tout, ainsi de suite. Tout. Souvent chez Paul, on trouve le mot tout. Et ici, pour nous faire réfléchir, nous tolérons ce qui est moins que parfait, moins que entier. Et dit Paul ici, non, l'amour pardonne tout, croit tout, espère tout. Alors, pensons un peu à ces 4 idées. L'amour pardonne tout. Tout. Jésus avait dit, tout péché sera pardonné aux hommes. Et ici, tout disciple, donc, pardonne tout. Mais ce qui est souvent dit, c'est « Mais peut-on pardonner si l'autre n'a pas demandé pardon ?» Qu'est-ce que vous pensez de cela? Attends, j'avais trouvé le nom, c'est pas Elliot? Bon, Elliot, oui. Mais c'est beau. Même quand l'autre n'a pas demandé pardon. C'est une évidence, bravo, bravo, je te remercie pour ta réponse. Mais il faut peut-être qu'on creuse un peu. Oui.
Peut-être que ça pourrait le faire réagir en fait, qu'il va pardonner.
Ça peut faire réagir de pardonner. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il peut y avoir une réaction en chaîne. Voilà, oui, merci. Finalement, je pense que nous ne devons pas oublier que notre pardon, mon pardon, doit être une imitation du pardon de Dieu. Je pardonne parce qu'il m'a pardonné. Jésus a raconté des paraboles dans ce sens. Je veux dire, est-ce que Dieu m'a pardonné avant que je lui demande pardon? En tout cas, nous pouvons voir ceci, qu'il a fait beaucoup avant que je lui demande pardon, pour que je lui demande pardon. Il a envoyé son Fils unique porter mes péchés sur la croix, pour que le pardon soit accessible pour moi. Et il m'a appelé, il a agi dans ma vie pour que j'arrive au point où je demande pardon. Et il a fait tout pour que la réconciliation soit possible. Donc la question, est-ce qu'on peut demander pardon si l'autre n'a pas demandé pardon, n'est pas si simple que cela. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de savoir si l'autre a demandé pardon. Mais est-ce que moi, j'ai fait tout ce qui est possible pour que l'autre soit prêt à me demander pardon, pour qu'il voit que mon pardon est disponible tout près dans mon cœur pour lui. Donc, il pardonne tout, l'amour pardonne tout, cela veut dire que je ne reste pas tranquille en attendant que l'autre me demande pardon, mais je fais tout pour qu'il me demande pardon, pour qu'une réconciliation soit impossible. Et donc, l'amour prend l'initiative, c'est cela que j'essaie de dire. Le pardon est un processus. Et que Dieu nous aide à agir dans ce sens. Pardonne tout. C'est incroyable comment les histoires durent entre chrétiens, entre églises même. Entre serviteurs de Dieu, entre familles d'Église. Il vaut la peine de se rappeler qu'aux plus hautes instances des églises évangéliques en France, il y a eu des différends, des inimitiés qui ont été résolues assez récemment. Et bon, le CNEF est en partie le fruit de cela. Et c'est merveilleux. Je crois qu'il y a eu beaucoup de bénédictions suite aux réconciliations qui ont eu lieu. Et c'est incroyable d'entendre des personnes parfois raconter des histoires qui remontent jusqu'à la préhistoire, j'allais dire. Histoire d'église. Oh, que Dieu nous aide à nous laisser imprégner par ce principe. L'amour pardonne tout et même si l'autre n'a pas demandé pardon, il fait tout pour que la réconciliation soit possible. Ensuite, il croit tout. Ce qui ne signifie pas que l'amour est crédule et naïf. Celui qui aime ne croit pas le mensonge. C'est évident que c'est un mensonge. Il n'est pas dupe des arnaques. Cependant, il n'est pas systématiquement méfiant. Il a une prudence qui est sage. Celui qui aime prend au sérieux ce que dit l'autre. Alfred Kuhn, dans le livre que j'ai cité ce matin, a dit « C'est cette disposition d'esprit qui obtient les meilleurs résultats dans l'éducation des enfants, comme dans la relation d'aide avec les adultes. Il espère tout, l'amour. Il espère tout de la part des autres. L'amour est optimiste concernant les intentions des autres. L'amour veut donner un lendemain aux autres. Il ne ferme pas la porte. Il espère tout. Il y a des expériences qui sont décevantes, des chutes, des relations qui sont interrompues. Et que pouvons-nous dire? Mais nous pouvons espérer tout. Croire que le meilleur est possible avec la grâce de Dieu. Il y a quelques années, dans un centre de vacances de nos églises, il y avait un camp de famille. Et le directeur du camp de famille a dit, mais je ne le nommerai pas, celui qui est responsable des jeunes dans ce camp, il y a quelques années, il était le pire des ados. Et maintenant, c'est lui le responsable des ados. Et je me dis, c'est parce qu'il y a des chrétiens. Non, je vois que vous essayez de trouver qui cela a pu être. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour dire que être un ado terrible, c'est une bonne chose, c'est presque tolérable. Non, c'est pas ça, au contraire. Mais c'est parce que quelqu'un a espéré tout de ce jeune, a continué à croire que Dieu pouvait faire de lui un enfant de Dieu actif et un véritable disciple de Jésus-Christ. Une église peut-être, une famille, des parents, je ne sais pas qui, a espéré tout encore. Merci Seigneur pour ceux qui ont espéré tout. Et puis, l'amour supporte tout. Ah, c'est délicat ce sujet. Cela ne signifie pas que le chrétien doit souffrir sans réagir. Il peut arriver un moment où le chrétien qui souffre aux mains des autres doit vraiment chercher une solution. Il y a beaucoup de cas, même scandaleux, de relations abusives dans les familles, dans les couples, dans les églises, au travail. Alors, comment réagir dans ces circonstances? Le chrétien ne doit pas supporter tout dans le sens de subir sans chercher une solution. Et par la grâce de Dieu, il est possible parfois de trouver des solutions. Et il est important de ne pas continuer à souffrir, à subir des choses insupportables. Il supporte tout, peut-être surtout nous rappeler les situations de persécution où le chrétien subit insultes et grossièretés, calomnies, incivilités, souffrances, situations pénibles et continue à les subir par amour. Il tient ferme dans l'adversité. Il supporte tout. Il y a même les écoles du dimanche où les moniteurs doivent supporter beaucoup par amour. Mais pas ici, bien sûr. Alors, ensuite, l'amour est durable. Il est éternel. C'est pour qu'on essaie de comprendre le raisonnement de ces versets. Certains dons spirituels, dit Paul, les langues, la prophétie, n'auront plus leur place dans l'éternité. Quand ce qui est parfait sera venu, dit-il. Je pense que cela veut dire quand le Seigneur Jésus sera revenu. Par contre, l'amour est une vertu qui existera pour toujours. Dieu est amour. Pensez, le ciel sera donc un environnement d'amour. Une belle pensée. Le ciel sera un lieu où l'amour règne. Deux illustrations sont données par l'apôtre pour aider les chrétiens à Corinthe à comprendre ce qu'il voulait dire. Et il voulait leur faire comprendre que ce que eux, ils prisaient, certains dons spirituels, finalement, prendrait fin un jour, alors que l'amour n'aurait jamais de fin. Donc il y a deux images. Il y a l'image de la maturité. Après l'enfance, il y a l'âge adulte, on laisse tomber les choses de l'enfance. Il y a l'image du miroir. Donc comme dans l'Antiquité, les miroirs étaient faits de métal poli et on ne pouvait pas voir très clairement l'image dans le miroir. Paul dit, mais actuellement, nous sommes dans le même cas, nous sommes dans une sorte d'enfance, d'immaturité, et un jour dans l'éternité, nous laisserons tomber ce qui est de l'enfance. Tout ce plaisir infantile dans l'effet de dons spectaculaires. Et le miroir, donc, une sorte d'ignorance. Nous voyons à peine. Il y a beaucoup de choses dans la vie que nous comprenons à peine. Et qu'est-ce que c'est que Paul dit ici? Nous voyons de manière peu claire. Je suis content que l'apôtre Paul dise cela. Mais un jour, nous verrons clairement, nous verrons le Seigneur face à face. Actuellement, je connais partiellement, alors je connaîtrai complètement. Et dit Paul, il faut comprendre qu'il y a des choses qui sont éternelles et des choses qui ne sont pas éternelles, qui ne durent pas. L'amour est éternel et dur. Maintenant, je voudrais quitter 1 Corinthiens 13 un moment pour terminer, en revenant à ce qui est dit dans Jean chapitre 13. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et nous avons vu ce matin qu'il y a beaucoup d'expressions dans le Nouveau Testament qui sont des variantes de cela, les uns les autres. Et je me dis que cela nous donne une certaine façon de comprendre la vie d'Église, qui est très différente de celle qui vient à l'esprit des non-chrétiens autour de nous. Ils imaginent l'Église comme une sorte d'autobus. Devant, il y a le conducteur, et assis dans les bancs de l'Église, plus ou moins somnolents, sont les passagers. Je pense que c'est vraiment à peu près cela, l'idée qu'ont certains de l'Église. Mais, dit Paul, non. Dans l'Église, les relations sont horizontales entre les membres de l'Église. Vous êtes là pour vous aider les uns les autres, pour vous encourager les uns les autres, pour vous pardonner les uns les autres, pour prier les uns pour les autres, pour rendre service les uns pour les autres, et demain nous le verrons, pour porter les fardeaux les uns des autres. Ça, c'est la vision de l'Église que nous donne ces passages. Et je trouve cela enthousiasmant, une Église où nous sommes tous là pour nous aimer les uns les autres. Alors, dit Jésus, je vous donne un commandement nouveau, mais pourquoi nouveau? Est-ce que déjà dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'appel à l'amour? Est-ce que tu aimeras ton prochain comme toi-même n'est pas dans l'Ancien Testament? Oui, bien sûr. Et regardez le livre des Proverbes, il y a beaucoup d'appels à l'amour entre les membres du peuple de Dieu. Cependant, il y a maintenant quelque chose de nouveau, une nouvelle communauté. La communauté des disciples de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, mes amis, mes disciples. Et l'Église, donc, est censée présenter, être une sorte de vitrine de l'amour dans le monde. Waouh! Et un commandement nouveau aussi, parce que nous avons un nouveau modèle, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Personne n'a fait savoir ce qu'est l'amour comme le Seigneur Jésus, non seulement par le lavement des pieds et puis par toute sa vie de service, mais sur la croix. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et donc, en plus, un nouveau commandement, je crois, dans ce sens que le Seigneur nous donne de nouvelles ressources pour aimer, l'Esprit Saint, qui est venu pour créer en nous le caractère de Jésus. Et quel est le premier fruit de l'Esprit, ou le fruit qui est en tête de la liste? C'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Qui peut faire réciter toute la liste? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, qui connaît par cœur toute la liste? L'amour, la joie,
la bonté, la bienveillance, la douceur.
Super, merci beaucoup. Tu es qui? Rappelle-moi.
Alexis.
Alors, tu peux recommencer au début. Le fruit de l'esprit, c'est
amour, paix, joie, bonté, bienveillance, patience, prise de soi, douceur.
Oui, et maîtrise de soi. Voilà. Super, je te remercie. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu citer cette liste? C'est parce que finalement, ce sont tous des aspects de l'amour que l'Esprit Saint est venu créer en vous et en moi. Et c'est une façon de dire une ressemblance à Jésus-Christ. Donc, un nouveau commandement dans ce sens que le Seigneur nous donne les moyens par l'Esprit Saint. Et qui peut dire c'est réussi en moi? Nous sommes tous conscients que nous sommes loin de ressembler à Jésus. En tout cas, ce que je veux dire, c'est surtout que quand Jésus a parlé de ce nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres, il a dit, afin que, il y a un but aussi, afin que le monde sache. Je vous ai donné un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. Autrement dit, le monde qui est autour de nous, à qui nous voulons parler, à qui nous voulons témoigner, va comprendre ce qu'est la foi en Christ lorsqu'il voit l'amour entre chrétiens. Il y a une trentaine d'années, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un chrétien, un auteur chrétien qui s'appelait Francis Schaeffer. Et il a écrit un livre qui s'appelle « L'Église à la fin du XXe siècle ». Et c'était un homme extraordinaire qui a ouvert des centres pour accueillir et aimer des jeunes en recherche spirituelle. Et à ses paroles, à propos de ces paroles de Jésus, il a essayé de dire que l'amour dans l'Église est le moyen par excellence par lequel le monde croit et arrive à la foi en Christ. Il a dit, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que le monde croit que le Père a envoyé le Fils, que Jésus a dit la vérité, que le christianisme est vrai, à moins que le monde voie l'amour entre chrétiens. Donc, lorsque nous discutons de l'évangélisation, de notre stratégie pour l'évangélisation, quelque part en tête de la liste, il doit y avoir, on va s'aimer les uns les autres. Et combien de fois ceux qui viennent à la foi, qui rencontrent le Seigneur, combien de fois ils diront, mais quand je suis entré dans l'Église, j'ai senti un amour, une atmosphère de bienveillance, qui m'a touché. J'ai découvert ce que je ne connaissais pas ailleurs. Et je crois que les relations que nous avons les uns avec les autres sont donc puissantes, comme apologétiques, comme on dit. C'est l'argument le plus puissant. Et c'est Jésus qui l'a dit, afin que le monde croit. Donc, que Dieu nous aide à réfléchir à nos relations les uns avec les autres. Il y a beaucoup à dire sur ce thème de l'amour, mais que Dieu nous aide dans nos couples, dans nos familles, dans l'Église, à nous aimer les uns les autres et à être une vitrine pour que le monde autour de nous découvre l'amour de Dieu. Prions. Ô notre Dieu, nous avons besoin de ton aide. Ce que nous avons lu dépasse ce qui est possible pour nous tout seuls. Nous avons besoin de l'aide de ton esprit à l'œuvre en nous. Nous avons besoin que tu nous rappelles constamment ce message. Et nous voulons te remercier que le Seigneur Jésus est un tel modèle de ce qu'est l'amour. Pour son amour pour nous, pour le don de sa personne sur la croix pour nous. Tout cela est extraordinaire. Nous t'en remercions. Donne-nous d'être des reflets de son amour pour ce monde. Amen.